Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Pendant la pandémie, le cinéma continue si seulement avec Mathieu Guetta, Arnaud et Jean-Marie Larrieux, Étienne Aulagnier, Patrick Sobelman et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. L'année 2021 verra-t-elle rouvrir les cinémas? C'est probable, la question évidemment c'est quand. Échaudée sans doute par la colère mi-décembre du milieu culturel en général et du cinéma en particulier, le gouvernement se garde bien désormais de faire miroiter une date ou retrouver le bonheur de partager ensemble des émotions dans une salle obscure et sur un grand écran. Et pourtant, pendant ce temps-là, le cinéma continue des projets se montent, des films se tournent et s'accumulent sur les étagères des distributeurs. Quant aux salles, elles rivalisent d'inventivité pour entretenir le lien avec leur public. Alors que l'année 2020 a vu la fréquentation des cinémas s'effondrer de 70% par rapport à l'année précédente et parallèlement s'accélérer des mutations qui lui préexistaient, avec en premier chef la place prééminente qu'occupent désormais par effet d'aubaine les plateformes numériques, comment la chaîne du cinéma encaisse la crise sanitaire, comment elle s'y adapte, voire en profite pour se réinventer, c'est la question que nous allons poser à Patrick Sobelman, producteur d'Agathe Film et compagnie ex Nihilo, qui était venu il y a 2 ans dans Plan Large nous parler de Solveig Anspach et qui produit aussi depuis longtemps des auteurs aussi singuliers que Pierre Drividic et Patrick Mario Bernard, Lucie Ladzialilovitch, Marina Devane ou Lucas Belvaux, Étienne Aulagnier de Jour de Fête, distributeur de films, de fiction comme documentaire qui résonne avec le monde dans lequel on vit, Merci Patron, et plus récemment Last Words et un pays qui se tient sage, c'était lui, et Mathieu Guetta qui dirige le Majestic Bastille, indispensable salle de cinéma de l'Est parisien qui accueille chaleureusement chaque mois, enfin quand le gouvernement l'autorise, nos séances France Culture. Mais avant cela, nous entendrons deux cinéastes, les frères Arnaud et Jean-Marie Larrieux, qui 17 ans après Un homme, un vrai, ont tourné entre les deux confinements dans leur lourde natale, une nouvelle comédie musicale, Tralala, avec Mathieu Amalric. Ils nous diront dans un instant comment ils se sont accommodés, voire ont tiré parti du très strict protocole sanitaire qu'ils ont dû observer. En fin d'émission, Ntebin nous emmènera lui aux confins du Kafiristan, redécouvrir l'homme qui voulut être roi, immarcessible chef-d'œuvre de John Huston. Mais pour l'heure, on part à la rencontre de deux autres aventuriers. Et Jean-Marie Larrieux, le 7 septembre, votre producteur Saïd Ben Saïd publiait sur les réseaux sociaux une photo, une première photo de tournage de Tralala. On est dans les rues de Lourdes, on voit un Mathieu Amalric chevelu, hirsute, barbu, jouant du banjo avec une belle Vierge Marie sur son banjo. Et autour de lui, il y a des nonnes masquées. Ce qui montre bien à quel moment vous avez tourné. Vous avez tourné donc en septembre dernier. J'imagine que cette scène n'était pas prévue telle quelle dans le scénario. Pourquoi est-ce que vous avez choisi que les masques soient présents ?
Plus généralement, on pourrait dire, nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a tourné il y a plus de 10 ans un film qui s'appelait « Les derniers jours du monde », qui parlait de l'apocalypse. C'était adapté d'un roman de Dominique Noguès, qui avait été lui-même écrit en 90. Et on s'était retrouvé à mettre en scène des figurants masqués avec un virus étrange. Alors il y avait de multiples causes à l'apocalypse dans le roman et dans le film. Et souvent on nous posait après le film, on nous posait la question, mais qu'est-ce que vous feriez si la fin du monde arrivait? Et ça avait été un long tournage, plutôt en réalité assez heureux. Et on disait on continuerait à tourner. Et quand est arrivé, notamment le premier confinement, on avait un scénario qui était achevé. On s'est retrouvé dans la situation où l'espèce, la sorte de fin du monde, il y avait surtout au début, hein, il y avait une sorte de, on se souvient très bien, dans les derniers jours du monde, c'est le sentiment d'incertitude totale qui commence à annoncer la fin du monde, notamment les paroles officielles, médiatiques, gouvernementales, on s'aperçoit qu'en fait, les masques, finalement, ça servait. Enfin, quand tout d'un coup, on met tout en doute. Et là, on s'est dit, tout d'un coup, ça se passait dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, finalement, on l'a fait. On va tout faire pour tourner. Et tourner à une période où on était entouré de cette réalité, des masques. C'est une vraie question de cinéma, c'est-à-dire on tourne dans un monde, une réalité qui était celle-là, la réalité des masques. On n'avait pas les moyens de mettre des figurants sans masque, ce qui aurait été un paradoxe. Et ça a été de se dire, mais est-ce que ça, c'est juste un phénomène qui n'est pas important? Ça va passer, on sera démodé dans 2 ans. Ou à l'inverse, est-ce qu'on est en train de filmer quelque chose qui annonce, parce que l'apocalypse, c'est aussi la révélation, c'est aussi... Est-ce que c'est ça qu'il faut filmer? Et on a attendu, hein, je dirais qu'on a attendu. C'est pendant la préparation qu'on a vraiment pris la décision de dire...
Mais après, on avait une certaine excitation vis-à-vis de ça quand même. On écrit plutôt ce qu'on appelle des ultra-fictions, et en l'occurrence là, beaucoup sur la comédie musicale, et qui est une réalité qui s'impose... Et très tenace, hein, très, très visible, très tenace, ça nous excitait. Après, il fallait trouver les moyens intelligents, amusants. Il ne fallait pas casser l'esprit de la comédie musicale par ça. Or, ce qui était drôle en soi, de toute façon, c'est de dire comédie musicale masquée. C'est-à-dire que déjà, il y a un oxymore. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont chanter derrière un masque? Donc, qui va chanter? Avec quelle voix? Alors, voilà, c'est à tout ça qu'il a fallu réfléchir. Vis-à-vis des comédiens et de la figuration. Parce que ces fameuses religieuses dont vous parlez, évidemment, sont fausses.
Mais on savait que les figurants sont raccord avec une certaine réalité qu'on a... Le film commence à Paris. C'était une réalité qu'on avait filmée. Je veux dire, il y avait des gens dans la rue qui étaient masqués. Donc, à partir de là... Enfin, c'est une vraie question de cinéma. Pour parler uniquement de cinéma, c'est de se dire, on a écrit une fiction et la réalité propose... s'amène avec quelque chose et comment cette réalité-là, on dit non, on veut pas la voir, ou précisément elle fait signe parce qu'on considère qu'elle va même... elle parle peut-être du film... Enfin, il y a une complicité possible avec la fiction du film. Voilà.
Et après, la réalité est toujours plus étrange et compliquée que la fiction, puisque il y a pas mal de moments documentaires ou en tout cas le tournage était vraiment en équipe légère et on s'adaptait au lieu, et il y a eu 2 moments comme ça, le premier sur un chantier où les ouvriers ils nous ont donné leur accord pour tourner mais 5 minutes avant, etc. Et les ouvriers n'avaient pas le masque. Donc nous, l'équipe de cinéma, était tous masqués, et les ouvriers non. Il y a une pelleteuse, il y a un chef de chantier, enfin voilà. Et puis on avait une autre scène à la gare Montparnasse où ce qui nous intéressait c'était une sortie de voyageurs de la gare, et là tout le monde était masqué. Donc même dans le documentaire, tout était compliqué et intéressant.
Il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Un tournage post-premier confinement et en période de pandémie, ce sont beaucoup de protocoles très contraignants. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a empêché de passer du temps sur d'autres choses parce qu'il y avait beaucoup de lourdeur à gérer, ou est-ce que vous avez su, là encore, en tirer parti?
Alors, c'est tout le fonctionnement de la communication dans une équipe de cinéma, où c'est quand même, a priori, déjà des gens qui ne se connaissent pas forcément. Bon, il y a les gens avec qui on avait l'habitude de travailler, mais il n'y en avait pas tant que ça, dont on connaît le visage, on peut déduire de leurs yeux tout le reste du visage. Mais tous les inconnus qui arrivaient, par contre, il y a un certain temps, il faut quand même appuyer la communication, il faut appuyer les regards, il faut choisir un peu les mots. Ça, c'est fatigant au bout d'un moment. Ça sensibilise un peu tout le monde, il y a une susceptibilité qui s'installe. Contre laquelle il faut lutter, c'est-à-dire qu'il faut s'exprimer plus clairement, plus fortement, et ça c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Il faut que la communication soit un peu soulignée.
La communication avec les comédiens, j'imagine, n'est pas la même non plus. Il y a beaucoup de communication infralangagière, je dirais, dans le rapport avec un comédien.
C'est sûr. Alors ce qui était étonnant, souvent, encore une fois, c'est pas les acteurs sont pas très souvent masqué dans le film, parce qu'il y a des intérieurs, des scènes intimes, et comme dans la vraie vie, on enlève le masque.
Mais vous, vous l'étiez.
Oui, voilà, ce qui était étranger. Donc, comme si les acteurs, mais ça aussi, c'était une métaphore assez belle, les acteurs étaient les seuls qui portaient très rarement le masque, parce qu'ils étaient sans arrêt, soit en répétition, soit, donc voilà, il faut, même quand ça tourne pas précisément, il faut qu'on voit leur visage, qu'on éclaire leur visage. Et c'était leur vulnérabilité, c'est-à-dire c'est un mélange de liberté, ils jouissaient d'une liberté, mais qui les rendait très vulnérables. Ça c'était assez beau, on pouvait reconnaître un acteur. En gros, l'acteur, c'est celui qui était pas masqué. Mais c'était celui aussi que, si par malheur ça arrivait, si tout d'un coup un acteur était révélé positif, là, ça s'arrêtait aussi. Donc au fond, ils se sont protégés entre eux, on va dire, et nous tous masqués autour d'eux. Voilà, il y a eu des petites péripéties où il a fallu attendre des actrices qui devaient arriver, qui n'étaient qu'à contact. Voilà, il fallait faire avec ça aussi. Ouais, ouais.
Oui, oui, ça a quand même déclenché une petite déviation du scénario quand même. Voilà, quelqu'un qui avait été cas contact, donc pas malade a priori, mais qui devait passer une semaine confiné. Donc, et qui devait être présente dans une séquence de fin. Et nous, ça a déclenché toute une série de réflexions sur la fin du film, quand même, sur laquelle on avait des doutes, mais c'est comme si on avait un instinct de se dire quelque chose va arriver qui va nous donner la vraie fin. Alors, elle n'est pas loin de celle qui est écrite, mais elle est bizarrement plus juste. Et on en est très content. Et elle est quand même arrivée comme ça.
Vous vous trouvez en ce moment dans un espace-temps un peu particulier. Nous sommes dans une salle de montage. Vous êtes en train de terminer le montage du film. Nous, comme spectateurs, on souffre beaucoup parce que on a le sentiment que le cinéma s'est arrêté, ce qui n'est pas le cas. Il y a eu des tournages, il y a du montage. Il continue à y avoir du tournage et des films qui se font. Comment est-ce que vous vivez ce moment assez étrange où vous faites un film sans savoir du tout quel va être son avenir?
Oui, mais faut se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire, on ne veut pas penser à la suite. On s'est dit étape par étape. Et donc là, effectivement, on se protège absolument de savoir quand c'est que le film sortira, quand c'est que les cinémas vont réouvrir. C'est vrai qu'on est dans chaque moment qui nous fait vivre, hein, qui nous, je veux dire, nous, on a du mal à dire que 2020 a été une catastrophe pour nous, puisqu'on est, ça n'est tiré précisément en se disant ce à quoi on tient, c'est quoi qu'il en coûte, on va tourner ce film. Enfin, quoi qu'il en coûte, non. Ce film va se faire maintenant. Voilà. Et ça nous fait tenir debout. Donc, tournage, montage, écriture. La sortie, j'allais dire, ça ne nous appartient plus. Là, on pourra... Ça ne nous appartient plus jusqu'au moment où on va se pencher dessus aussi, parce qu'effectivement, ça ne peut pas durer. Il y a tellement mille manières de pouvoir voir des films en grand, quand même, que c'est pas possible. Ça va finir par devenir de la censure. Je veux dire, il y a des projections plein air, on peut projeter dans des églises, on peut. Donc, au bout d'un moment, ça va pas tenir l'histoire de fermer les cinémas. Mais pour l'instant, on se protège de cette question-là, je dirais.
Après, il va sûrement y avoir une sorte de tension, puisqu'il y a eu beaucoup de tournages, plein de films qui devaient déjà sortir l'année prochaine, qui sont déjà prêts à sortir, ceux qui vont être prêts. Donc, qui va gagner, il va y avoir un petit départ de course, hein, à un moment donné.
Utopiquement, on pourrait se dire, si jamais tous les films américains sortaient sur les plateformes, et que toutes les salles réouvraient pour accueillir le cinéma européen et français, il pourrait y avoir une sorte de parenthèse enchantée, parfois, une très grande année. Il y a peut-être des possibilités plus joyeuses que celles qui se dessinent, on va dire, mais bon.
Je suis un homme, un vrai, quand je suis dans tes bras.
Je suis une femme, une vraie femme, quand tu es là.
Je suis un homme, un vrai, quand tu me dis tout bas.
C'est encore la première fois.
Oh, j'oubliais tes yeux comme ils étaient radieux.
Oh, j'oubliais ta voix. mais elle est la même. Quand tu me dis
je t'aime, je suis un homme, un vrai. Quand tu me dis tout bas,
c'est encore la première fois.
Un homme vrai des frères Larieux, dont on entend la merveilleuse bande originale signée Philippe Catherine et chantée par les non moins merveilleux Mathieu Amalric et Hélène Filière. On peut le voir en ce moment en DVD et en VOD, mais pour ce qui est de Tralala, entre des festivals incertains, celui de Cannes se projette même possiblement fin juin, voire fin juillet, et l'embouteillage des salles quand elles rouvriront, impossible évidemment de savoir quand on pourra le découvrir, mais on a hâte. Patrick Sobelman, Étienne Olagnier, Mathieu Guetta, Ntebin, vous allez réagir dans un instant au propos des Larieux, mais pas avant d'avoir eu un aperçu d'un autre film très attendu.
Simonette est dans le train, elle est à la... Alors, je lui ai donc dit qu'elle doit partir avec son papa. Elle est dans le train, dans le visage. Il y a de la tristesse. C'était le dernier, comment c'est, blic. C'était, comment qu'on dit blic en français?
Dernier regard.
Le regard de Simone. C'est le même regard, je suis obligée de le dire, était quand Simone était venue de Suisse de retour. C'est quand elle m'a trouvé, c'est après la déportation, quand elle m'a mis à la gare, de nouveau une gare. Simone est venue de Suisse en 40, la guerre était 45. Finie, 45. Et j'avais encore la tête déportée. C'est le même regard quand elle est venue avec accompagnée de Suisse et nous étions à la gare, qu'elle m'a dit, de loin, je savais, j'étais avec deux femmes. Elle m'a dit loin, je te regarde et je savais, c'est toi ma maman.
La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de votre grand-mère, Patrick Sobelman. Golda Maria, c'est aussi le nom de ce film que vous avez co-réalisé avec votre fils Hugo et qui a profondément ému tous ceux qui ont eu la chance de le découvrir au dernier festival de Berlin, qui a pu se tenir physiquement l'an dernier, juste avant que la pandémie de Covid n'envahisse l'Europe. Le prochain festival de Berlin, d'ailleurs, aura lieu en virtuel, une première pour un festival de cette importance. C'est un film donc qu'on espère bientôt voir en salle et on aura le plaisir sans doute de vous réinviter pour nous en parler, Patrick Sobelman. Mais pour l'instant, une réaction à ce que viennent de nous raconter les frères Larieux. Est-ce que ça ressemble aux conditions de tournage que vous avez vous-même éprouvées pour vos films en cours de fabrication? Vous venez par exemple de finir le tournage du film de Karine Tardieu, Les Jeunes Amants, le dernier scénario qu'avait écrit Solveig Anspach avant sa disparition. Patrick Sobelman.
Bonjour. Alors oui, je reconnais beaucoup de ce que les frères Larieux racontent sur les conditions de tournage. D'abord dire que ça donne très envie de voir Tralala quand même. Sur les conditions de tournage, c'est la même chose. On était tous masqués, il y avait des dangers de cas contact, voire de cas positifs. Il y avait des dangers de perdre des décors. La communication est plus difficile entre les gens de l'équipe et avec les comédiens. Tout est plus compliqué et plus dangereux. Ça, c'est sûr. Après, sur Les Jeunes Amants, mais comme sur le tournage du film de Robert Guédiguian, qu'on a tourné au Sénégal, qui s'appelle Twist à Bamako, à la même période.
Et qui a dû s'arrêter, lui, ce tournage a dû s'arrêter pendant de nombreux mois.
Oui, il a fait les trois premières semaines avant le confinement du 16 mars, et ensuite on a repris seulement début octobre, pour les six dernières semaines. Mais on a pu le mener à son terme, mais dans chacun des deux cas, il n'était pas question d'avoir des masques à l'écran. Le film de Robert se passe dans les années 60 au Mali, et le film de Karine, s'il se passe aujourd'hui, a une dimension intemporelle, et qui se prêtait mal avec l'idée que les masques, un jour ou l'autre, quand même, on pense qu'on va pas les, on va quand même s'en débarrasser. Et contrairement au film des frères, il n'y a pas de signification particulière à une histoire d'amour en temps de masque ou en temps de pandémie. Mais pour le reste, oui, on a vécu exactement le même type d'expérience. C'était pas simple, oui.
Mais pour un producteur, c'est d'autant moins simple qu'il y a... Bon, c'est déjà compliqué de faire un film, mais là, il y a effectivement le risque que ça s'arrête pour une raison ou pour une autre. Est-ce que ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps sur des questions sanitaires que sur des enjeux qui pourraient être plus proprement artistiques ?
Alors non, parce qu'il faut résister à ça. Quand le spectateur verra le film, on ne va pas marquer un avertissement en disant « Attention, ce film a été tourné en temps de pandémie. Il faudra que le film soit réussi. » Donc oui, on y passe beaucoup de temps et d'énergie. Et non, il faut évidemment garder l'œil sur l'essentiel. C'est le film lui-même, c'est accompagner le réalisateur, c'est conforter les comédiens, l'équipe, c'est tout faire en sorte pour que le spectateur qui verra le film un an plus tard ne se dise pas « Oh, ça a failli être bien. »
Étienne Olanier, je cite encore les frères Larieux, ce qu'il disait à la fin, utopiquement, si tous les films américains sortaient sur les plateformes et si les salles réouvraient pour accueillir le cinéma européen et français, il pourrait y avoir une parenthèse enchantée, une très grande année, des possibilités plus joyeuses que celles qui se dessinent, et certains films l'ont déjà vécu, cette parenthèse enchantée, comme Antoinette dans les Cévennes, dont Caroline Vignal d'ailleurs était venue nous parler dans Plan Large. Antoinette dans les Cévennes et ses 750 000 spectateurs, une combinaison de salles très impressionnantes, ou encore un film que vous avez distribué, Étienne Olanier, Un pays qui se tient sage de David Dufresne, qui a fait 100 000 entrées et qui aurait pu atteindre sans doute les 200 000 sans l'interruption de sa carrière par la fermeture des salles. Sans blague, ça pourrait être une piste, Étienne Olanier, cette idée évoquée par les frères Larieux.
Bonjour. Tout d'abord, c'est plus qu'une idée, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous le disiez, c'est ce qui s'est passé dans les quelques moments agréables qu'on a pu avoir cette année, en tout cas en tant que distributeur de films, c'est-à-dire de pouvoir en sortir. Donc pour ma part, j'ai pu en sortir 6 sur les 12 qui étaient prévus, et je pense qu'on est à peu près dans ce ratio tous. On a effectivement la moitié de nos films qui n'ont pas pu sortir, et puis on en a une partie effectivement qui est sortie ou qui devait sortir et qui a été interrompue par les différents moments de confinement. Moi j'ai plusieurs exemples comme ça de films qui ont trouvé leur place effectivement dans ce marché un peu particulier sans films américains, et à l'inverse un certain nombre d'autres effectivement pour qui la non sortie du film ou la sortie interrompue est un peu une catastrophe. Donc je peux citer par exemple la carrière un peu bizarre de Un fils, un très beau film de Mehdi Barsaoui avec Sami Bouadjila, qui est sorti le 11 mars, donc la semaine du premier confinement, qui a très bien démarré. Donc sur la base de ce démarrage, on pouvait espérer 150 ou 200 000 entrées, et puis il est ressorti le 22 juin. Mais évidemment, il s'était passé trois mois d'interruption qui changeait complètement la donne. Donc le film n'a malheureusement fait que 50 000 entrées à la fin. À l'inverse, Un pays qui se tient sage est sorti un petit peu au bon moment parce que on était dans une période un peu plus calme, en tout cas en matière sanitaire, et donc on a pu organiser des centaines de débats avec David Dufresne ou d'autres intervenants et faire ces 100 000 entrées. Après, c'est effectivement décevant par rapport à ce que la carrière possible du film, puisque sa carrière a été interrompue au bout de 3 semaines et que des centaines d'autres débats étaient prévus. Là, on a eu une autre grosse désillusion hier, c'est d'apprendre que la semaine Télérama qui était prévue fin janvier forcément serait non seulement repoussé mais annulé, et le film en faisait partie, donc il avait l'occasion de ressortir, de faire ses entrées, et ça sera peut-être pas le cas, enfin à moins que les salles ne décident de le reprendre à la réouverture. En tout cas, oui, c'est une période un peu particulière, et c'est vrai que le cinéma français s'en est plutôt bien tiré, en tout cas pour certains films, et les exemples que vous avez cités sont des bons exemples. On peut ajouter Effacer l'historique, La bonne épouse ou d'autres films qui ont aussi trouvé leur public malgré cette période terrible.
Et même des films dans les films non américains, il y en a beaucoup. Il y a aussi des films japonais comme L'infirmière, qui a eu une très très belle carrière cet été. Mathieu Guetta, vous êtes le directeur, je l'ai dit tout à l'heure, du Majestic Bastille, salle de cinéma de l'Est parisien. Comment est-ce que vous avez observé, vous, cette sorte de parenthèse enchantée, pour reprendre le mot des frères Larieux, ce qui s'est passé entre deux confinements pendant l'année 2020?
Bonjour. Ce que je voudrais d'abord exprimer et reprendre un petit peu ce qui a déjà été dit, c'est vrai qu'il y a un message d'espoir très fort on l'entend avec les frères Larieux, on l'entend avec l'extrait du film de Patrick Sobelman. Il y a un terrible supplice à écouter tout ça, c'est qu'on a envie de voir ces films. Et je pense que vos auditeurs de France Culture, mes spectateurs, les spectateurs d'une manière générale, ont envie d'être au cinéma, ont envie de découvrir des œuvres dans une salle. Cette parenthèse, elle a permis de le constater dans les faits. Le public était au rendez-vous, malgré un protocole que nous respections scrupuleusement. Nous avions des complets aux jauges Covid. Mais ce que l'on doit retenir de toute cette période, c'est que des salles comme les nôtres, celles de la Maison du Lac Cinéma, des cinémas indépendants parisiens, des salles à réessais, c'est que nous avons depuis longtemps une pratique militante vis-à-vis du cinéma et que c'est cette pratique-là qui est aujourd'hui au goût du jour. Les gens recherchent une sortie qui n'est pas une simple sortie. On ne va plus au cinéma avant, comme on pouvait aller dans un bistrot facilement. Ça, cette période-là est terminée. Aujourd'hui, une sortie cinéma est une vraie sortie qui demande un accompagnement du public, une présentation, parfois des rencontres avec les équipes des films, et tout ce travail-là, ben, nous espérons vivement pouvoir le reprendre rapidement.
Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici.
À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end.
Hop. Tu donnes tout, là ?
Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens.
Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein. Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye.
Une fusée. Championne de France.
Oh, regarde l'effet que tu me fais.
Désolé.
Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là.
Bon, alors, comment ça se passe, l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi?
Tu vois pas qu'il nous regarde? T'as parlé à quelqu'un?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle?
Vous écoutez France Culture, plan large sur la chaîne du cinéma, comment elle vit, survit, s'adapte et se réinvente en ces temps épidémiques. Nous sommes avec Mathieu Guetta, Étienne Olanier, Patrick Sobelman et N.T. Bean. Et cette bande-annonce, c'est celle de Slalom, premier long-métrage très attendu de Charlène Favier. Il devait sortir le 4 novembre, mais le deuxième confinement a commencé, comme on le sait, le 30 octobre. Il a donc été repoussé au 16 décembre. Emmanuel Macron ayant créé l'espoir que les salles rouvriraient le 15 et puis finalement, comme on sait, ce n'a pas été le cas. Nous avons nous-mêmes une interview de Charlène Favier prête à être diffusée quand le film sortira enfin. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à chaque fois, ce sont des montants considérables qui sont investis pour assurer la promotion du film avant sa sortie. 250 000 euros à chaque fois, je crois. Et ce film, c'est vous qui le distribuez, Étienne Olanier, avec votre société Jour de Fête. C'est donc vous qui engagez ces frais. Alors comment, dans le cas d'espèce très particulier de Slalom, non seulement survit financièrement parlant, mais même comment est-ce qu'on garde intact le désir pour un film quand on est à chaque fois empêché au dernier moment de le dévoiler au public, Étienne Olanier?
Je dois dire que j'ai été très ému en écoutant la bande-annonce, hein, le son de la bande-annonce. Que
oui, il est très
beau. Fois, je voyais les images et puis je revoyais tout le travail qu'on a mené depuis en fait le mois de janvier sur ce film, puisque ce film on avait vraiment espoir qu'il puisse être diffusé à Cannes. On a eu la chance qu'il soit sélectionné, qu'il reçoive le label du Festival de Cannes cette année, et on a longtemps espéré, y compris pendant le confinement, qu'on pourrait lui faire vivre J'ai un peu la même carrière que l'an dernier, Papicha, qui était un film chez nous, un premier film qui a eu une carrière assez incroyable et Slalom semblait sur cette lancée. Alors, effectivement, c'est compliqué l'histoire de Slalom parce que c'est un film auquel on croit énormément, qui est un des très beaux premiers films de l'année 2020, donc qui sortira en 2021, qu'on a quand même eu la chance de pouvoir montrer au public pendant le festival d'Angoulême, puis le festival de Deauville. Donc, je dirais, sa carrière était lancée. On voyait que le public l'appréciait énormément, les jurys également, puisqu'il a reçu plusieurs prix, etc. Et on attendait beaucoup de cette sortie du 4 novembre. Et je dois dire qu'on a effectivement eu les jambes coupées quand il a fallu l'annuler, la repousser. Et puis, on a eu à nouveau un coup d'espoir très important avec cette perspective de réouverture le 16 décembre. Donc, on y allait à fond. La première fois, on avait fait un gros investissement, beaucoup d'affichage, etc. Mais comme le confinement avait été décrété quelques jours avant la sortie, on a pu un peu freiner les choses. Pour le 16 décembre, on a remis énormément d'affichage. Je pense que beaucoup de gens voient les affiches aujourd'hui dans les rues de Paris, les gares, partout, etc. Donc le film est vraiment très présent, mais toujours pas à l'écran. Et c'est compliqué, c'est vrai, pour nous de vivre ça. Alors après, comme on y croit beaucoup, et ben on va réinvestir à nouveau pour la sortie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à se projeter. Aujourd'hui, je suis aussi président d'un syndicat de distributeurs, le SDI. On rencontrait la ministre de la Culture hier. On est tous blessés par ce qui s'est passé le 16 décembre. Et aujourd'hui, on a besoin de certitudes pour pouvoir repartir, réinvestir sur les films, que ça soit moi pour Slalom ou d'autres sur d'autres films, puisque évidemment, il y a beaucoup de films qui ont été abîmés, je dirais, par ce dernier confinement. Les films qui étaient les très beaux films qui étaient à l'affiche depuis une ou deux semaines, comme Drunk, Adieu les cons et d'autres, et puis ceux qui devaient sortir le 16 décembre. Donc on est tous là, j'irais un peu dans les starting blocks, mais on pourra pas repartir la fleur au fusil comme on l'a fait le 16 décembre, parce qu'effectivement, ces investissements qu'on a dû faire et qui sont perdus à ce stade, c'est énormément d'argent pour nous tous à notre échelle, hein, de distributeurs indépendants, et on peut pas se permettre de le faire en l'occurrence trois fois sur Slalom. C'est compliqué, quoi. Alors heureusement, l'État nous aide un peu, hein, le secteur, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais on est toujours en discussion sur ces sujets-là. Et puis surtout, on a besoin aujourd'hui de certitudes, d'autant plus que on a été quand même assez choqué par le traitement des cinémas, des salles de spectacle, également par rapport à d'autres secteurs dits non essentiels. On a même entendu lors de l'arrêté du Conseil d'État récent le mot substituable pour nos métiers. C'est des choses qui nous choquent beaucoup, et on a besoin aujourd'hui qu'on parle de culture avec d'autres termes que ces termes-là. On pense que la salle de cinéma est aujourd'hui non pas non essentielle, mais absolument essentiel pour le public, pour les gens qui ont besoin de se rencontrer, d'échanger, etc.
Le Conseil d'État a tout de même rappelé l'importance de l'accès à la culture, disant lui que ce n'était pas substituable. Patrick Sobelman, vous-même, vous aviez un film que vous avez produit, Un triomphe d'Emmanuel Courcol, qui devait sortir le 23 décembre, donc on ne sait trop quand il va sortir. Qu'est-ce que ça implique pour un producteur d'avoir un film comme ça qui reste sur l'étagère de son distributeur? Est-ce qu'il y a la tentation, comme pour d'autres films, de le passer directement sur une plateforme ou sur une chaîne cryptée pour que ce film soit enfin vu?
Alors, dans le cas particulier, non, parce que le film a, comme pour Slalom, il a eu également une vie festivalière, la même que celle de Slalom d'ailleurs, Angoulême et Cannes, et le label de Cannes, et les perspectives de rencontrer le public sont suffisamment importantes pour qu'on ne soit pas tenté de le mettre directement sans VOD ou sur une chaîne. Donc on attend, et c'est évidemment beaucoup d'angoisse, beaucoup de frustration, surtout c'est beaucoup de frustration, parce que là aussi on a eu on a changé la date de sortie tout le temps. On devait sortir au mois de novembre, et ensuite on a espéré pouvoir sortir pendant les fêtes, ou début janvier, ou début février. Maintenant, on ne sait plus du tout, et comme le disait Étienne, maintenant il faut absolument des certitudes, et donc peut-être que cette certitude va nous amener à le repousser tardivement à un moment donné où on peut espérer vraiment que la pandémie soit derrière nous, c'est-à-dire à l'été, voire à l'automne. Et ce qui pose l'énorme problème d'abord de l'attente pour le réalisateur, de l'attente pour nous, pour tous ceux qui travaillent sur le film. Et puis le problème monstrueux de l'embouteillage. Plus les salles ouvriront tard, plus l'embouteillage sera grand et il faudra un temps important pour fluidifier tout ça, pour qu'on revienne à une situation normale où les films ne seront pas en concurrence exacerbée les uns contre les autres, où évidemment les entrées vont se concentrer sur les quelques événements et que pour que la diversité puisse vivre, ça pose vraiment un énorme problème. Plus ça sera tard, plus ce sera difficile. Et je ne parle même pas de problème d'argent, là je parle simplement de problème de faire exister les films. Il y a déjà pas mal de films qui risquent l'invisibilité, donc c'est ça qui est très compliqué.
Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ?
Le bitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà.
Pourquoi on veut pas de moi ?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop ?
Albert, tu rejoins chez sa mère ?
Bah non, on est en froid.
T'as regardé dans mon téléphone ?
J'aurais une raison de le faire.
Monsieur, le cabinet est fermé.
C'est qui ?
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis son mari, monsieur.
On n'est pas mariés, tu sors d'ici.
Tu sors !
Soigne ta jalousie.
Qu'est-ce qui va pas avec moi ?
Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films.
Télétransporte-moi.
Ça va, mon chiffon ?
Ça va, j'arrive de loin.
Je descends pour y voir plus clair.
Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose ?
T'as l'air tout chose.
Pourquoi tu me parles jamais de tes amours ?
Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.
Ça va aller, mon chiffon.
Ah, ne retiens pas tes ailes mâches.
T'aimes bien quoi, cher mec ?
C'est une vraie question.
Jérémy, qu'est-ce que tu fais ?
J'apprends mon texte pour l'audition.
Ne cherche pas à comprendre.
Merci pour tous mes mères.
Vos sœurs.
Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie ?
Mais tu fais de la.
Ton père et moi, on n'a pas eu de chance.
Tu pourras.
Mais je t'ai eu. Mais ça, c'est énorme. Alors là, je suis heureux. Avec toi.
Nous aussi, nous étions heureux de présenter en avant-première le 27 octobre dernier ce Garçon chiffon de Nicolas Maury qui allait sortir le lendemain et rester deux jours en salle. C'était au Majestic Bastille, bien évidemment, puisque c'était une séance France Culture, d'autant plus émouvante cette séance qu'on sentait bien, le cinéaste comme les spectateurs, que les salles allaient bientôt replonger dans l'obscurité absolue. Mathieu Guetta, vous dirigez cette salle, vous étiez aux premières loges, puisque vous êtes à Bastille avec ce cinéma, première loge de la manifestation contre la fermeture prolongée des lieux de culture le 15 décembre. La salle que vous dirigez a même créé l'événement avec une fresque de street art peinte pour l'occasion. Alors cet afflux de films le jour où les salles rouvriront, vous voyez ça comment ? Vous vous en réjouissez ? Qu'est-ce que vous faites si du jour au lendemain, comme agit parfois le gouvernement, vous apprenez que les salles rouvrent, Mathieu Guetta ?
Mais nous ouvrons, évidemment, sans avec aucun doute. Nous rouvrons. La profession est tout à fait capable de s'organiser, de rebondir, de s'inventer. Je ne doute pas qu'il y aura des films. Mais là, sans revenir sur des choses très techniques, ce qui me semblait aussi important de rappeler, on l'a déjà un peu évoqué, c'est que les salles de cinéma sont la partie visible d'un iceberg, d'un écosystème vertueux. Chaque place vendue dégage une taxe. Cette taxe sert à une politique culturelle, à une vraie redistribution. On comprend bien qu'on est dans un système d'économie mixte où le marché permet une création, une diversité de création. Et c'est peut-être là un point d'inquiétude. Le reste, non, les salles de cinéma sont toujours là. Nous avons appuyé sur pause et dès qu'il faudra rouvrir, nous rouvrirons. Nous maintenons constamment un fil avec nos spectateurs. Il y a les réseaux sociaux où nous produisons des conseils quotidiens de films à voir, où nous produisons des podcasts pour faire continuer, d'irriguer la cinéphilie. La Maison du Lac a même produit un document de 44 artistes et personnalités du cinéma qui déclarent leur amour aux salles. Et là-dessus, je n'ai pas de doute. J'ai juste une inquiétude sur l'avenir de la diversité et du système vertueux français.
Mais Patrick Sobelman, précisément, l'argent redistribué par le CNC, là vous venez par exemple de vous voir attribuer l'avance sur recette pour le prochain film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, un film que vous coproduisez. Cet argent vient, comme vient de le dire Mathieu Guetta, de taxes notamment sur les billets de cinéma. Et je l'ai dit en introduction, 70% de chute de la fréquentation, ça risque d'impacter fortement les finances du CNC. On sait qu'il y a une taxe, une autre en cours d'élaboration qui va taxer les plateformes de VOD type Netflix, mais ça ne sera pas avant la fin 2021. Est-ce qu'il va falloir, dans l'année qui vient, imaginer d'autres façons de financer les films, Patrick Sobelman?
Oui, on est de toute façon, indépendamment de la situation sanitaire, on est de toute façon à un moment de bascule, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a soudain une concurrence des plateformes qui est évidemment gigantesque parce que les moyens, ces plateformes sont des plateformes mondiales, elles ont des moyens gigantesques et l'année 2020 n'a fait qu'évidemment qu'elle a été un effet d'aubaine fantastique pour elles et maintenant évidemment nous avons tout fait et nous avons raison pour les faire rentrer dans le système de la chronologie des médias pour créer ce système vertueux qui est indispensable à la diversité. Maintenant, il est évident que l'année 2021 va être, en tout cas l'année 2021 va être forcément très très compliquée. Elle est très compliquée pour les distributeurs, comme l'a expliqué Étienne. Elle est très compliquée pour les producteurs parce que les chaînes ont des obligations d'investissement et donc il va falloir qu'elles dépensent de l'argent. Par contre, les distributeurs ont des stocks de films très importants pour au moins un an et demi ou deux ans, donc n'ont pas besoin de films et n'ont pas nécessairement les moyens aussi de les acquérir. Donc tout ça peut créer un effet de coup de ciseau qui va être compliqué et dont les plateformes peuvent aussi bénéficier. Or, l'apport des plateformes financières au système ne remplacera pas du tout ce qui existe aujourd'hui, en tout cas pas maintenant. Et puis, par ailleurs, les plateformes ne sont pas du tout demandeuses de sortie en salle. Donc, c'est toute une idée du cinéma, de cette idée du cinéma qui commence évidemment par la salle, par cette expérience collective sur des écrans plus grands que nous. Et c'est le vrai risque, il est là. Alors évidemment, il y aura toujours des événements qui sortiront en salle, mais c'est tout l'écosystème dont on a parlé à l'instant qui est vraiment menacé. Donc oui, il faudra certainement imaginer d'autres formes de soutien. L'État a fait pas mal quand même, franchement, depuis le début de la pandémie. Le CNC a quand même tenu une grande partie du secteur à bout de bras. Ça n'empêche que les plus fragiles sont encore plus menacés que les autres, que les groupes ont en difficulté, mais que les indépendants sont extrêmement, extrêmement fragilisés. Et on se pose tous la question de quoi, qui, comment, où. C'est des questions qu'on se posait quand même moins ou pas il y a un an.
Ntebine, on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission, mais vous nous avez écouté. À positif, vous avez dû vous aussi réinventer sans arrêt votre sommaire. Comment faire une revue de cinéma quand il n'y a plus de sorties en salle? Mais comment est-ce que vous observez ce qui s'est passé dans cette année 2020? Est-ce que vous pouvez parier que rétrospectivement, on parlera d'un moment de bascule dans la façon dont on fait et dont on voit des films?
Écoutez, ce qu'il y a, on ne peut pas prévoir l'avenir. Moi, ce que j'espère, d'une part, c'est que le désir du public d'aller en salle va reprendre. C'est quand même une question cruciale, mais de la même manière qu'on peut en avoir assez pendant le confinement de faire la tambouille chez soi et qu'on va se ruer sur les restaurants dès qu'ils vont rouvrir, peut-être que ce sera, enfin j'espère, la même chose pour les cinéphiles. Maintenant, il y a tout le évidemment le problème des professionnels dont d'une certaine manière je fais partie puisque la presse spécialisée dans le cinéma est très tributaire des sorties en salle et de l'actualité. La cuisine qui se prépare chaque mois est fonction des films qui vont sortir. Donc effectivement, c'est c'est très difficile de prévoir. On prépare tout un numéro avec une date potentielle de réouverture des salles, et puis tout ce numéro va être constitué d'actualités reportées, c'est-à-dire l'année dernière, on fait une couverture avec Ondine de Christian Petzold, on en fait une autre avec Michel-Ange, enfin voilà, et ces films ne sortent pas au moment où ils étaient prévus. Alors ça suscite peut-être une envie, mais d'un autre côté, ça nous force à réfléchir à d'autres contenus, à revisiter l'histoire du cinéma, ce qu'on ne cesse de faire de toute façon, mais à inventer une nouvelle manière de parler des films d'actualité, même ceux qui ne sortent pas en salle. Alors évidemment, il y a les plateformes. En février, pour la première fois dans l'histoire de la revue, on va mettre en couverture un film qui ne sort pas dans les salles, mais qui est sur une plateforme. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer au quotidien. Et c'est vrai qu'une revue de cinéma, contrairement à peut-être à un film qui a une sortie, une revue de cinéma mensuelle, il suffit qu'elle s'arrête un mois et elle est quasiment morte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture de continuité. Et là, alors heureusement, nous avons aussi des éditeurs, l'Institut Lumière et Actes Sud, qui nous soutiennent dans l'invention, à chaque mois finalement, d'un numéro qui ne ressemblera pas à ce qu'on avait prévu.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager.
Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler.
Moi la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé.
C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi je t'ai lissé les ailes, ma chérie.
Mais je peux lisser les tiennes moi aussi.
Ça ne se fait pas si vite déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà vu.
Mais tu restes à ras de terre,
celle où je t'ai fait marcher.
Mais pourquoi toujours te taire?
Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie.
Nous garderons nos ailes et intactes notre désir de retourner dans les salles de cinéma. C'est Anne Sylvestre dont on entend la chanson Ma chérie dans le film de Nicolas Maury, Garçon chiffon. Petit salut à la grande chanteuse récemment disparue. Merci Patrick Sobelman, Étienne Olanier. On espère redécouvrir très bientôt en salle vos films. Merci aussi Mathieu Guetta. Vivement qu'on se retrouve au Majestic Bastille pour une séance France Culture. Je signale, même si vous n'y avez pas participé, mais vous auriez pu, une très intéressante table ronde réunissant 8 directeurs de salles de cinéma, publié dans les nouveaux cahiers du cinéma. En attendant, comme tout le monde, nous regardons des films chez nous. Dans les plateformes de VOD, il y en a d'excellentes, évidemment, comme notre partenaire Mubi, qui propose depuis peu 6 films d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, Daguerréotype, documentaire, Les Glaneurs et la Glaneuse, Santoine Hillois et Kung Fu Master, alias Le Petit Amour. Et comme on les aime d'un grand amour, on vous propose de les redécouvrir gratuitement en allant sur mubi.com/promo/franceculture. Un lien que vous retrouverez sur la page Plan Large de franceculture.com, avant ou après évidemment, d'avoir réécouté l'émission que nous avions consacrée il y a 2 ans à la grande documenteuse, quelques mois avant sa disparition. C'est un autre grand cinéaste français qui sera à l'honneur toute la semaine prochaine sur France Culture. Claude Chabrol arpentera avec son regard de hibou goguenard et son sourire malicieux les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, qui recevra notamment Isabelle Huppert mercredi prochain. Ceci rappelé, il est temps de se mettre au pas.
Now listen to me, you benighted mockers! We're gonna teach you soldiering, the world's noblest profession. When we've done with you, you'll be able to stand up and slaughter your enemies like civilized men. But first, you'll have to learn to march in step, do the manual of arms, without even having to think. Good soldiers don't think. They just obey. Do you suppose if a man thought twice, he'd give his life for queen and country? Not bloody likely. He wouldn't go near the battlefield. One look at your foolish faces tells me you're going to be crack troops. Or him there with a 5½ hat size has the makings of a bloody hero.
Now the timing in the British Army has always been 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Is this again order? 1, 2, 3.
Stay after me. 1, 2, 3.
In case I'd go.
1, 2, 3. Ready, steady, go. 1, 2, 3.
1.
Vous les aurez peut-être reconnus avec leurs accents respectivement écossais et cockney, ces deux ex-sous-officiers de l'armée des Indes qui tentent avec peine d'apprendre à des paysans afghans le glorieux métier des armes, la profession la plus noble au monde qui leur permettra de massacrer leurs ennemis en hommes civilisés et qui permettra à nos deux compères aventuriers de conquérir le trône du Kafiristan et la mythique cité de Sikander Gul. Ce sont Sean Connery, dont c'était le rôle favori, et Michael Caine réunis pour la première fois devant une caméra, la caméra de John Huston pour un de ses meilleurs films, L'homme qui voulut être roi. On est en 1976, mais ces deux aventuriers, ça aurait pu être aussi bien Paul Newman et Robert Redford, ou Peter O'Toole et Richard Burton, ou Robert Mitchum et Burt Lancaster, et même au départ ça devait être Clark Gable et Humphrey Bogart, autant d'acteurs auxquels avait pensé John Huston pendant les 20 ans que lui a pris cette adaptation magistrale d'une nouvelle de Rudyard Kipling, film qui vient d'être édité dans un magnifique coffret collector DVD et Blu-ray dans une tout aussi magnifique copie restaurée qui rend justice à la palette du directeur de la photo Oswald Morris, déclinaison d'ocre, d'or, de terracotta rehaussée de bleu céleste, comme l'écrit Christian Viviani dans le nouveau numéro de Positif qui arbore en couverture une photo du film. Qu'est-ce qu'il y a de si houstonien dans L'homme qui voulut être roi pour que le cinéaste se soit si longtemps accroché à ce projet, Ntebin?
Oui, alors juste avant de vous répondre, je voudrais revenir sur l'extrait que vous nous avez passé. Dans le DVD, Blu-ray, coffret qui vient de sortir, il y a une interview extraordinaire d'une personne qui s'appelle Angela Allen, qui était la script de John Huston, mais pas uniquement à partir des années 70, mais depuis African Queen au début des années 50. Et elle raconte que dans cette scène, eh bien, Sean Connery et Michael Caine improvisaient un petit peu. Enfin, Huston leur laissait une très légère liberté sur le script qu'il avait coécrit lui-même, et que Sean Connery était un peu désarçonné parce que c'est lui qui devait entraîner les troupes. Et il disait à Michael Caine, écoute, souffle-moi les instructions parce que moi j'étais dans la marine, alors que toi t'étais dans l'armée. Alors dis-moi comment faire. Voilà. Et ça fait, à mon avis, cette anecdote explique un peu comment se déroulaient les tournages de John Huston. Alors évidemment, cet homme qui voulut être roi, il accomplit à la fois le rêve et puis la chute de tous les héros houstoniens depuis le premier long métrage de John Huston, où il ne s'agissait pas d'un trésor accumulé du temps d'Alexandre le Grand, mais d'un faucon, prétendument de Malte, qui s'avérait à la fin n'être qu'une illusion, comme toujours chez Huston, lorsque tout le monde a perdu, et Humphrey Bogart, qui aurait dû jouer le rôle ici de Michael Caine, on lui demandait mais qu'est-ce que c'est que cet objet, et il répondait c'est l'étoffe dont les rêves sont faits. Et dans ce sens-là, eh bien, on comprend que l'homme qui voulut être roi, c'est vraiment l'étoffe dont John Huston était fait, puisque c'est la grande aventure avec éventuellement ses mythes ou même sa mythomanie qui conduit l'homme à se révéler lui-même, mais à se révéler lui-même aussi dans ses défauts et dans ses faiblesses. Donc, la nouvelle de Rudyard Kipling que Huston développait en même temps que Moby Dick nous prouve que finalement, au cinéma, il est plus facile de prendre un récit court et de l'étendre à l'échelle d'un chef-d'œuvre que de prendre un récit fleuve et de le comprimer à l'échelle d'un long métrage. Donc, l'homme qui voulut être roi est une bien plus grande réussite que Moby Dick, film certes intéressant de John Huston de 1956, donc 20 ans avant, c'est aussi peut-être parce que, comme le suggérait Alexandre Trauner, le décorateur de L'homme qui voulut être roi, ce qui manquait peut-être au film de Huston, Moby Dick, pour être à la hauteur du roman, c'est le point de vue de la baleine. Donc ici, dans L'homme qui voulut être roi, on sent que Huston a partagé finalement son regard entre ces deux personnages, qui sont deux personnages houstoniens en diable. C'est-à-dire au départ, ils ont le même rêve, et puis il y en a un qui va essayer de l'accomplir jusqu'à la folie, et puis l'autre qui va rester lucide, avec une ironie qui remplace l'humour un peu truculent du début. Et cette ironie... par laquelle tout le film fonctionne puisqu'il est en flashback, est charrié par le personnage de Michael Caine, celui qui reste lucide, alors que celui de Sean Connery a l'échec grandiose des héros de John Huston, que ce soit celui du trésor de la Sierra Madre quand la ville dort, The Asphalt Jungle. C'est ces héros qui ont découvert à la fois leur grandeur et leur faille à travers une aventure, puisque Huston était un aventurier, en se prenant un moment pour Dieu. Je vous rappelle que Huston, dans l'un de ses films les moins réussis, faisait la voix off. Ce film, c'était la Bible, et la voix de Dieu, c'était celle de John Huston, qui y incarnait par ailleurs Moïse.
En deux mots, Entebbe, c'est un film qui sort à un moment étrange, puisqu'il est à la fois anachronique et matriciel. Il sort en plein nouvel Hollywood, mais il annonce tout le cinéma d'aventure qui va suivre dans les années 80, les aventuriers de l'Arche perdue, la forêt d'émeraude et autres.
Oui, c'est-à-dire que Huston a ceci d'exceptionnel dans sa carrière, qui est d'une longévité incroyable. C'est-à-dire, on dit souvent qu'il y a 10 ans essentiels dans la vie d'un créateur. Ben, chez Huston, ça se prolonge sur des années et des années, d'une carrière sans doute inégale, avec des films plus personnels et d'autres plus de commandes ou de circonstances, ou pour gagner son pain. Mais là, il se trouve qu'il réussit avec ce film à passer le cap du classique au moderne, c'est-à-dire que c'est à la fois un grand film d'aventure dans la tradition hollywoodienne des films avec Errol Flynn ou avec Humphrey Bogart, et un film déjà moderne avec un dialogue extrêmement savoureux mais extrêmement réaliste, et une approche qui annonce le modernisme et le postmodernisme des années d'après l'âge d'or hollywoodien.
Merci Entebbe, L'homme qui voulut être roi de John Huston, en coffret collector DVD Blu-ray, accompagné du livre richement illustré de photos de tournage de Samuel Blumenfeld, La matière dont les rêves sont faits, l'Inde à Marrakech, c'est chez Wildside. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Sylvain Latu. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, pour la première fois dans Plan large, nous parlerons d'une série télévisée, OVNI, qui commence lundi sur Canal+, nous serons avec les créateurs de la série, Clémence D'Argent et Martin Douer, son réalisateur de cinéma, Anthony Cordier, et son acteur principal, acteur de cinéma, Melville Poupeau. Et Mathieu Macheret évoquera le très provocateur cinéaste italien Marco Ferreri. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.